Bienvenue à vous qui nous retrouvez sur AWR, la radio mondiale adventiste, pour votre nouveau programme de la Voix de l'Espérance en français, qui vous est proposé et présenté par Oscar Miani. C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours très nombreux à nous écouter sur les ondes, par Internet ou aussi grâce à votre téléphone, vous le savez. D'ailleurs, je vous rappelle tout de suite les numéros qui ne sont absolument pas surtaxés. Alors, si vous voulez nous écouter avec votre téléphone depuis la France, eh bien, vous composez le 01 80 14 44 77. Si vous voulez nous écouter en dehors de la France, eh bien vous ajoutez le 00 33 1 80 14 44 77. Et puis si vous voulez nous écouter depuis les États-Unis, vous composez le 1 712 432 9 978. Aujourd'hui donc, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lindsay. Ensuite, vous retrouverez votre émission « C'est vous l'histoire ». Tout de suite, pour commencer, voici donc « Sentez-vous bien ». Vous êtes maintenant à l'écoute de votre émission « Sentez-vous bien » et nous sommes aujourd'hui en compagnie du docteur Jean Lindsay. Bonjour.
Bonjour Oscar.
Lors de nos émissions précédentes, vous nous avez souvent parlé de neurosciences et aujourd'hui vous nous invitez à nous arrêter sur cette question en particulier des neurosciences.
Ce que je vous propose, c'est de regarder quelques grands auteurs qui ont marqué les neurosciences récemment, forcément.
Et alors, qui sont-ils, ces grands auteurs?
On va en oublier beaucoup.
La liste est longue.
La liste est longue, mais quand on regarde tout ça, au bout d'un moment, on se demande si l'homme serait pas en train d'écrire son mode d'emploi. L'homme a découvert les 5 continents, mais il a découvert les 5 continents avec un continent, le 6e, en somme, qui est son cerveau. Et il est peut-être en train de le découvrir, peut-être trop tôt pour le dire, peut-être nous berçons-nous d'illusions, mais il est vrai que quand on s'y intéresse, cela donne au bout d'un moment une vision du monde un peu différente, comme quand on a considéré avec certitude que la Terre était ronde et qu'elle tournait autour du Soleil, un petit peu de la même manière.
Et donc aujourd'hui, vous voulez nous dire qu'on aurait pris conscience qu'on a un cerveau ?
Oui, c'est un petit peu, pendant des siècles, c'était la boîte noire quand même. Mm-hmm. On ne pouvait pas en dire grand-chose. Alors que là, c'est sûr, tout de suite, on peut en dire beaucoup de choses.
Il y a beaucoup d'études et de découvertes qui sont faites sur le cerveau.
C'est énorme, oui.
et alors, quelles sont ces découvertes, par exemple ?
Écoutez, on pourrait commencer par les neurones miroirs. Les neurones miroirs sont des neurones qui s'activent quand on fait une chose ou quand on voit faire une chose. Donc ce sont des neurones qui sont interfaces dans les processus d'imitation. Or, les processus d'imitation sont centraux dans les comportements humains, finalement. Et Platon l'avait déjà vu, hein. L'homme est un animal d'imitation. Alors c'est formidable, parce que ça permet de transmettre des savoirs très rapidement, par imitation complètement inconsciente, hein. Vous faites le geste qu'a fait l'autre. Mais par contre, évidemment, ça a des inconvénients, c'est que si ce que fait l'autre n'est pas bien, vous allez imiter ce qui n'est pas bien.
Ce qui se passe avec la cigarette, par exemple.
Par exemple, et ou alors ça peut amener aussi à des imitations rivalitaires, c'est-à-dire que à force de s'imiter, on finit par imiter l'envie, le désir qui habite l'autre et le désir de posséder certaines choses. Et si la chose n'est pas en quantité suffisante, on va avoir un conflit. Donc les neurones miroirs sont la meilleure et la pire des choses. Alors pour ça, il suffit de lire « Les neurones miroirs » de Giacomo Rizzolatti. Rizzolatti est le découvreur des neurones miroirs. C'est un Italien de Parme. C'est un génial découvreur des neurones miroirs.
Et ça, c'était une étape importante, justement, dans la meilleure connaissance de notre cerveau?
Ah oui, ça a changé quand même. Oui, ça, les neurones miroirs, c'est certains disent que c'est peut-être pas aussi important que ce qu'on croit, mais enfin, personne ne dit que c'est pas important. C'est quelque chose. Les neurones miroirs, ça a été vraiment une surprise.
Et quelles sont les autres découvertes qui ont été faites? C'est une sorte d'étape comme ça qui jalonne.
Des moments importants. Il y a eu également les connaissances de plus en plus précises des structures et du fonctionnement de l'hypothalamus. On ne se rend pas compte, mais nous sommes gouvernés par une toute petite structure dans le cerveau qui s'appelle l'hypothalamus et qui commande alimentation, sexe, agressivité, domination simple et létale. Et les modèles animaux nous permettent vraiment de bien comprendre tout ça. Alors, les découvreurs en francophonie de tout ça, c'est un auteur strasbourgeois, Pierre Carli, qui a écrit « L'homme agressif et les racines de la violence ». Et puis les travaux de Sakina Maouti, qui est chercheuse chef d'équipe à l'université Pierre et Marie Curie, qui est vraiment une connaisseuse parfaite des modèles animaux. Est-ce qu'on voit des comportements chez le rat à partir de l'activation de l'hypothalamus du rat et de la souris, ça plonge dans des abîmes de perplexité, parce que on croirait s'y retrouver, quoi.
Et la structure du cerveau humain est identique à la structure des cerveaux d'animaux?
Il y a des analogies fortes,
qui permettent justement de faire ces découvertes.
Alors là j'y viens, ce qui nous sépare des animaux, c'est les fonctions hébergées par les aires préfrontales, c'est-à-dire la partie antérieure du cerveau que les animaux ont, mais beaucoup moins, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, puis pas avec la même structure histologique, avec des sous-structures qui n'existent pas chez les animaux, comme la zone frontopolaire, la zone qui est la plus en avant dans l'aire préfrontale, apparemment, il n'y en aurait pas chez les singes.
C'est ce qui dissocie l'homme de l'animal.
Quand même, tout le monde est d'accord pour dire qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là, quoi. Ce qui est très étonnant, c'est que l'homme qui a découvert ça, qui pourrait être considéré quand même comme l'espèce de Christophe Colomb des aires préfrontales, hein. C'est le russe Luria, qui est injustement méconnu à mon avis, hein. Luria a mis en évidence les fonctions hébergées par les aires préfrontales, parce qu'après la dernière guerre, les Russes avaient malheureusement beaucoup de blessés du cerveau qui avaient survécu, et il a observé ce qui se passait chez les patients qui avaient eu des lésions du cerveau, les cérébraux lésés, et il a bien mis en évidence le fait que les aires préfrontales avaient comme propriété d'être nécessaires pour ce qu'on appelle les fonctions cognitives supérieures. Il a écrit un livre qui s'appelle Les fonctions cognitives supérieures de l'homme. Et qu'on ne peut pas bien mettre en évidence si on n'est pas un observateur fin, parce que le sujet va vivre normalement, il n'a pas de déficit évident, tout fonctionne, simplement il se comporte pas de manière optimisée, quoi.
Ça occasionne des problèmes de comportement?
C'est-à-dire que le sujet a du mal à planifier ses actions, il n'a pas d'axe du temps, il est prisonnier du présent. Il a du mal à avoir une vraie altérité avec l'autre, c'est-à-dire considérer l'autre comme un autre lui-même mais différent de lui-même, avoir la bonne distance par rapport aux autres. Il a du mal à intégrer les émotions des autres. Il n'est pas capable de dire non à ses instincts et à ses affects. S'il a une envie, il faut la satisfaire tout de suite. Il peut pas. Il a du mal à différer. Comme il n'y a pas d'axe du temps, il a du mal à différer. Il peut pas dire non au processus d'imitation. Tout boucle. Quand vous n'avez pas d'air préfrontal, vous ne pouvez pas dire non à vos neurones miroirs. Luria en avait dit que c'était le lobe de la civilisation. Cette structure nous sépare des singes, elle est altérée par les traumatismes crâniens. L'alcool, le tabac, le cannabis, les drogues en général, on le voit bien en imagerie cérébrale. Ça devrait être les aires préfrontales devraient être le sanctuaire de l'homme, le sanctuaire qu'il faudrait sacraliser jusqu'à 25 ans. Les aires préfrontales ne sont pas finies avant 25 ans. Sont complètement finis, câblés. On considère que le cerveau est embryonnaire, en somme, jusqu'à 25 ans. Ce qu'on appelle la néothénie. Nous avons, nous, au niveau de notre cerveau, une néothénie, un développement embryonnaire après la naissance, qui est très très long, au niveau du cerveau. Ça, c'est maintenant, c'est bien établi. C'est Jay Gide, G-I-E-2-D. Alors, nos auditeurs, en tapant JJ de neurodéveloppement, trouveront toutes les images qui montrent bien comment le cerveau se développe jusqu'à 25 ans. Et s'il y a un pépin entre deux, on vient avoir un blocage du développement, quoi.
Docteur Jean Lindsay, merci beaucoup. C'était Sentez-vous bien. On se retrouve prochainement pour d'autres émissions.
Au revoir, Oscar.
Au revoir.
Vous aussi, votre santé vous intéresse ? Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france@awr.org.
This is Adventist World Radio, the voice of hope.
Ici Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance.
Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la Radio Mondiale Adventista,
la voce della speranza.
Vous écoutez toujours la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani avec toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était Sentez-vous bien que vous retrouverez dès demain, cette fois avec le docteur Jean-Cyan Broy. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, alors il vous suffit de nous adresser un mail à france@awr.org. Je répète, france@awr.org ou alors par courrier à IEBC, La Voix de l'Espérance, boîte postale 100 77193 d'Amarie-Lélis, Cedex. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre émission C'est vous l'histoire.
C'est vous l'histoire.
Dans les bras, je savais que c'était le mien. C'était inexplicable. Je me suis découvert en une seconde des velléités de tigresse si on touchait à mon fils.
Bonjour, c'est vous l'histoire vous raconte celle de Juliette Spichiger. Pour nous, elle a accepté de revenir sur le parcours de l'adoption de son fils, un chemin emprunté par bien des parents et qu'elle a décidé de raconter dans un livre intitulé « Mon enfant », illustré par Juliane Maurer. Juliette Spichiger est institutrice, elle vit en Suisse romande avec son mari et leurs trois jeunes enfants. Mais avant d'en arriver à ce chapitre-là, il y a eu toute une période durant laquelle, pour reprendre une expression de son livre, le ventre de maman ne s'arrondissait pas. Elle se raconte au micro de Christine Raymond.
C'est vrai que quand on se marie jeune, il y a beaucoup d'attentes. Au bout d'une année, les gens nous demandent « Bien alors, vous n'avez pas prévu un enfant ?» Et puis petit à petit, c'est vrai qu'on y a pensé. L'idée, c'était d'avoir une famille, effectivement. Et le fait de voir autour de nous les gens de notre âge avoir des enfants, entrer dans cette phase de pouponnage, biberon, et puis cernes sous les yeux, et puis petites traces de lait sur l'épaule, ça donne envie de partager cette expérience. Et puis c'est vrai que quand on en a envie et que ça vient pas, c'est long, c'est pas facile, et puis c'est vrai que ça devient de plus en plus pénible en fait. Alors on a beaucoup discuté avec Igor effectivement de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, on a vu des médecins, on a vu des spécialistes de plein de choses qui nous ont dit que pour nous c'était peut-être pas la façon la plus simple d'avoir des enfants. Et puis en réfléchissant finalement on s'est dit que quelque part dans le monde, il y avait sûrement des enfants qui avaient besoin de parents, qu'on n'avait pas besoin forcément de passer par une procréation assistée ou comme ça. Et puis mon mari a deux sœurs adoptées, donc pour lui c'était presque normal, ça faisait partie d'une famille d'avoir des enfants adoptés, ça n'avait rien de bizarre. Donc on est plutôt parti sur cette option-là.
Alors, cette démarche d'adoption va vous conduire au Vietnam. Pourquoi ce pays précisément?
Alors, dans notre idée, à la base, comme on ne savait rien, on partait pour faire un dossier, et puis après le faire traduire dans la langue du pays où on avait envie d'adopter. Puis on nous a dit non, il faut choisir le pays d'abord, parce que les dossiers varient d'un pays à l'autre, les demandes sont différentes. Et puis bon, on est resté comme ça 2-3 jours, puis un matin, Igor se lève, on déjeune, puis il me dit « Mais toi, tu verrais l'adoption dans quel pays ?» Puis très spontanément, comme ça, je fais « Le Vietnam ?» Puis il me regarde, puis il me dit « tu sais, ça fait 3 nuits que quand je rêve, il y a une petite fille vietnamienne qui me court dans les bras. » On n'a pas eu l'impression de choisir, ça avait l'air décidé comme ça. Bon, en en parlant après, on avait quand même pensé que ce serait bien que les enfants ne nous ressemblent pas physiquement.
Pourquoi? Est-ce qu'il y avait une raison particulière?
Absolument. C'est-à-dire qu'on a entendu plusieurs expériences d'enfants qui découvraient, quand il y a le test de la prise de sang, des groupes sanguins, qui découvraient à l'adolescence que c'était juste pas possible que leurs parents soient leurs parents. Et puis c'est vrai qu'à l'adolescence, il y a déjà tellement de choses à gérer. S'il y a ça qui vient s'ajouter, c'est pas évident. Alors on s'est dit, si physiquement ils ne nous ressemblent pas, il y aura forcément des questions qui vont venir. Et j'ai été très très étonnée parce que déjà à 3 ans, mon aîné m'a posé certaines questions auxquelles j'aurais même pas pensé répondre si elles n'étaient pas venues. J'aurais pas pensé aborder le sujet avec lui. Donc finalement, c'était très bien.
Attendre dans l'amour, on sait que la démarche d'adoption, ça prend un certain temps, en tout cas, suivant les pays. Est-ce qu'on aime déjà cet enfant avant de l'avoir véritablement dans les bras?
Oui, très nettement. Mais on a eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que pour notre première adoption, ça allait 1 année. C'est relativement court pour une adoption. Pour la deuxième, ça allait 5 mois. Ça, c'est une adoption record. Donc l'attente, elle était plus avant que pendant les démarches d'adoption, parce que là, on est vraiment dans l'activité. On doit aller chercher un papier, une signature. C'est d'ailleurs assez galère des fois. Notre cœur, il était déjà tout plein de cet enfant, et puis il y avait des moments de réjouissance énorme, mais il y avait aussi des moments de doute. Je me suis dit, mais si je le trouve moche, il peut pas avoir les yeux de son papa, il peut pas avoir les pieds de sa grand-mère, il peut pas. Alors il y a eu des questionnements comme ça, des peurs qui avaient absolument pas lieu d'être, parce que le jour où on me l'a posé dans les bras, c'est juste le plus beau du monde. Donc c'était vite fait. Le jour où je l'ai eu dans les bras, je savais que c'était le mien. C'était inexplicable.
Elle a voulu laisser à ses enfants une trace écrite de cette aventure qu'est l'adoption. C'est un ouvrage qui possède une double entrée. Quand le lecteur arrive au milieu du livre, il le tourne et il recommence la lecture par l'autre bout. Une manière originale de faire se rencontrer les histoires de deux mamans, celle qui abandonne son enfant par obligation et celle qui, après un véritable parcours du combattant, va l'accueillir et l'élever.
L'adoption, c'est vrai qu'on parle souvent d'abandon. Et c'est vrai, il y a abandon. Mais j'avais envie de dire à mes enfants que c'était un abandon. Oui, mais un abandon par amour. Parce que c'est vrai que quand on est allé au Vietnam, on a vu aussi la façon de vivre des gens, la pauvreté, la précarité, le sourire aussi. Mais la maman qui nous a donné Liam avait cet espoir d'une vie meilleure pour son fils que ce qu'elle pouvait lui donner elle. Et quand elle me l'a mis dans les bras, elle lui a fait un petit bec sous le front, puis après elle est partie. C'était très, très sobre. Mais ça voulait tout dire. Évidemment qu'elle ne m'a pas parlé, on ne parlait pas la même langue. Mais elle était prête dans sa tête à se séparer de son enfant pour qu'il ait une meilleure vie que si elle le gardait avec elle. J'ai juste trouvé magistral. Mais je me suis dit, effectivement, c'est une déchirure pour la maman aussi. Et je suis très très reconnaissante aux deux mamans de ventre de mes enfants de les avoir aimés assez pour les confier à quelqu'un d'autre.
Juliette, vous avez une foi en Dieu qui est là, qui est riche. Qu'est-ce que tout ce parcours d'adoption a remué en vous par rapport à votre foi en Dieu ?
Il y a eu vraiment des hauts et des bas. Il y a eu un méga clash. C'est-à-dire qu'on avait décidé d'adopter. Ça, c'était septembre. En octobre, on partait avec mon mari. On était dans une chorale pour aller au Canada pendant 15 jours, chanter dans les églises. Tout ça, c'était un projet qui était en place depuis longtemps. Et puis, au Canada, tout à coup, il me dit « T'as l'air un peu pâle, qu'est-ce qui se passe ?» Je lui dis « Ah, j'ai pas supporté le voyage, je sais pas quoi. » Puis il me dit « T'es sûre que t'es pas enceinte ?» On a acheté un test de grossesse. Et là, on a découvert que j'étais enceinte. Et puis, ben, c'était juste un éblouissement total de se dire, ben voilà, on avait décidé de partir dans une procédure d'adoption, ben, ça sera peut-être reporté ou annulé puisque j'allais avoir un bébé. Et puis, 3 mois après, je l'ai perdu. Et là, ça a été un coup dur parce que on avait pris cette grossesse comme une promesse, comme un cadeau que Dieu nous faisait par rapport au fait qu'on avait attendu longtemps, qu'on avait souhaité d'avoir un enfant, et puis que, comme si il nous disait, voilà, maintenant je vous le donne, c'est le moment. Et puis alors on était juste heureux, et le fait de le perdre, moi ça m'a posé un gros problème. J'ai fait la gueule à Dieu pendant 3 jours. Je comprenais pas, en fait, ça m'a vraiment mis au fond du trou, puis je comprenais pas. Je disais, ok, alors quoi? Tu me fais miroiter un cadeau, puis après tu me le reprends? Je suis pas d'accord, ça me va pas. Et puis, j'arrivais pas à passer par là-dessus. J'ai dit, créateur, ok. Mais viens plus me dire, t'es mon père, parce que ça, je suis plus d'accord. Mon père, sur la terre, s'il avait la possibilité de me donner un enfant, il l'aurait fait depuis longtemps. Et puis, il me l'aurait pas repris, il m'aurait pas montré une jolie photo en me disant, c'est pour toi? Ah non, c'est pas pour toi. Et pendant 3 jours, j'ai fait la tête, mais c'est aussi là que j'ai remarqué que finalement j'avais une relation très très proche avec Dieu, parce que le fait de la couper m'a montré que qu'il y en avait une. Et puis après 3 jours, ben j'arrivais pas, je pouvais pas me passer d'une amitié qui me faisait vivre différemment ma vie, qui me donnait un rayon de soleil dans ma vie tout le temps, même quand ça allait pas. J'ai dit ok, on recommence, mais on pose les choses à plat. C'est encore allé un moment. Donc, j'ai fait ma fausse couche au mois de novembre. Et puis, j'avais commencé les répétitions du Requiem de Mozart. Et les concerts devaient avoir lieu le 23 et le 25 mai. Et le terme de ma grossesse aurait dû être entre le 23 et le 25 mai. Donc, en plus, je trouvais ça un peu, voilà, embêtant. Et puis, le jour du concert, j'étais dans ma salle de bain. Je me suis dit, non, je peux pas y aller. C'est juste pas possible. Je devrais être à la maternité. Je me retrouve à chanter un requiem. J'arrivais pas. C'était plus fort que moi. Puis, j'ai dit comme ça, maintenant, je pète un plomb. Dieu, je peux pas aller plus loin. Là, ça va pas. J'y arrive pas et tout. Et dans ma tête, je pense que c'était dans ma tête. J'ai l'impression que mes oreilles l'ont entendu, mais je pense que c'était pas le cas. J'ai entendu quelqu'un qui me disait « Les choses sont ce qu'elles doivent être ». Alors en soi, la phrase a rien d'extraordinaire. Mais en même temps, il y a une paix qui est arrivée dans mon cœur. Et la colère est partie, la révolte est partie. Et à ce moment-là, j'ai pu commencer à faire le deuil de cet enfant, de pouvoir me dire « Ok, les choses sont ce qu'elles doivent être ». Puis ben voilà, la vie continue. Et à ce moment-là, j'ai pu entrer dans cette phase de laisser partir ça sans colère et sans amertume et reprendre le dossier de l'adoption qui était en cours et de me réjouir pour mon enfant.
Cinq ans après l'adoption de leurs enfants, Igor et Juliette Spichiger vont avoir une énorme surprise. Les médecins annoncent à Juliette qu'elle est enceinte. Une nouvelle à peine croyable.
J'avais mis tellement de temps à me dire que ce serait jamais pour moi. J'avais mis tellement de temps à tourner cette page dans ma tête que ça allait pas. C'était fini, c'est pas un truc pour moi. J'avais mis une croix dessus et tout. Et je me suis retrouvée enceinte une grossesse pas hyper géniale en plus, un accouchement par césarienne en urgence, enfin voilà. Et mon petit dernier, je l'ai adopté à la seconde où je l'ai eu dans mes bras. Exactement la même chose que pour les deux premiers. J'ai eu beaucoup de peine à m'investir dans ma grossesse, en fait. Quand je voyais mon reflet dans une vitre, je me disais, mais c'est moi, ça? J'étais toute surprise. Parce que dans ma tête, c'était juste pas possible. Donc, je l'ai vécu de façon très bizarre, ma grossesse. Puis à la seconde où j'ai eu ce petit dans mes bras, c'était le mien, comme pour le premier, comme pour ma fille. Donc, c'était, je me suis dit, il n'y a vraiment pas de différence. Je crois que un cœur de maman, c'est un cœur de maman. Que l'enfant soit vert, jaune, bleu, à pois ou à rayures, c'est comme ça.
On se quitte pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver à tout moment sur les réseaux sociaux et sur notre site web parole.ch. À plus.
Au nom de l'amour.
Est-ce un nouveau film ?
Non, c'est le nouveau cours de l'IEBC.
IEBC ?
Oui, l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tous les cours gratuits.
Tu as raison, au nom de l'amour, ça vaut la peine. Ce cours m'a vraiment interpellé. www.iebc.org.
Notre émission est maintenant terminée. C'était la Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance. Je vous souhaite une très bonne continuation à tous. Que Dieu vous bénisse. À demain. Thank you.